Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Alexandre Niungeko.
Vous êtes bien sûr à Radio Nzamba Gatekakawe. C'est le moment de suivre le journal de ce jeudi. Nous sommes le 8 août 2024. Tout de suite les titres. Des usagers de certains parkings de bus en mairie de Bujumbura dénoncent une certaine brutalité qui caractérise des policiers. Selon des témoins, une femme enceinte a été brutalisée de sorte qu'elle a failli avorter. Vous suivrez le reportage dans ce journal. Les 6 premiers mois de cette année ont été très noirs sur le plan des droits de l'homme. Les violations des droits ont été relevées comme des assassinats, enlevements et autres viols. C'est dans le dernier rapport semestriel de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme. Et puis, les organisateurs du prochain recensement sont appelés à se fier aux experts burundais dans différents domaines qui couvrent cette opération. Cet appel est lancé par un expert démographe qui indique que tous les moyens sont en place pour la réussite de cette opération. Voilà pour le sommaire. À toutes, à tous, bonsoir, bonjour, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Il s'observe depuis peu des actes de violence orchestrés par certains policiers qui sécurisent les parkings dans la mairie de Bujumbura. Les chauffeurs et passagers disent être dépassés par cette situation. Ce jeudi, une femme enceinte a failli avorter suite à la persécution lui infligée par un policier dans le parking du centre-ville. Deux véhicules qui mènent vers Moussaga. Des femmes présentes sur les lieux ont pu lui sauver la vie alors qu'elle allait avorter. Le comble, c'est qu'après la persécution, elle et son mari ont été embarqués dans un véhicule par le policier qui les a conduits vers un endroit inconnu. Les détails avec Joséphine Jones-Hunziman.
Ses habitants disent qu'ils sont fatigués par le mauvais comportement de certains policiers qui assurent la sécurité dans les parkings. Des gens sont persécutés par ces policiers sans motif valable, au vu et au su de tous, sans obtenir aucun soutien. Exemple, ce jeudi au parking de bus de la ligne Ville-Moussaga, où un homme et sa femme enceinte ont été tabassés. Écoutez ce témoignage.
Le chef de poste de la position de police qui se trouve au parking Moussaga et Kanyosha est toujours en tenue civile avec son Motorola. Un quaster est arrivé à bord duquel un chauffeur et sa femme. Le policier, chef du poste, appelé communément Shane Dadaye, a exigé aux deux personnes de sortir du véhicule, leur disant qu'ils n'ont pas fait la queue. Le chauffeur s'est expliqué en indiquant qu'il était de ce parking et que les chauffeurs de cet endroit ont la consigne de ne pas faire la queue. Le policier a tabassé le chauffeur et l'a jeté dehors. Le chauffeur criait en disant au policier que sa femme est enceinte quand le policier s'était mis à violenter la femme. Le policier n'a pas écouté le chauffeur. Il a pris la femme, l'a jetée loin du véhicule, comme l'on jette de la saleté. La femme a pleuré à chaudes larmes. Elle avait beaucoup souffert. Elle souffrait beaucoup.
Femmes qui étaient dans ce parking ont pu sauver la femme qui était dans un état de malaise suite à la violence du policier. Elle a failli avoir une fausse couche. Le comble de malheur, c'est que les victimes ont été transportées par le policier vers un endroit inconnu.
Les femmes qui étaient au parking Moussaga sont intervenues, pleines de compassion. Elles ont relevé la femme et l'ont mise à un endroit à l'écart. Les gens ont commencé à se lamenter par rapport à l'acte posé par le policier. Ils ont crié en disant au policier qu'il a le devoir d'assurer le respect des droits de l'homme et en lui indiquant que ce qu'il venait de faire à la femme était une lourde faute. Le policier a pris la femme et son mari, les a conduits vers un endroit inconnu. Nous ne savons pas s'il a transporté la femme à l'hôpital ou s'il a conduit le mari en prison.
Et tout dit,
La rédaction de la radio Inzamba Gatika Kawe n'a pas pu joindre Pierre Mourkiye, porte-parole de la police, pour de plus amples informations.
Merci Josephine Jones. La cour d'appel de Gitega a envoyé une convocation à Gérard Nibigira. Gérard Nibigira, qui est correspondant de la radio-télévision Isanganiro dans la province de Gitega, selon la convocation qui a comme objet enquête, il doit se présenter ce vendredi 9 août à 9h du matin, muni de ses pièces d'identité. Pour rappel, à la fin du mois de juin dernier, le journaliste Gérard Nibigira se trouvait devant une station d'essence dans le centre-ville de Gitega quand il a été brutalisé et arrêté par le commissaire communal de la province de Gitega, puis conduit au commissariat provincial où il a été privé de liberté pendant quelques heures. Il a été relâché par après, mais ses téléphones ont été confisqués au motif qu'il avait pris des photos d'une scène de brutalité policière devant une station d'essence. Quelques temps plus tard, alors qu'il était allé récupérer ses outils de travail, il a appris qu'il a ridiculisé le commissaire de police auprès du journaliste Bob Rugulika, directeur de la radio RPA. Le journaliste Nibigira a balayé d'un revers de main cette accusation en indiquant tout simplement qu'il n'est pas en contact avec Bob Rugulika. La coalition burundaise des défenseurs des droits humains dresse un bilan largement négatif sur la situation des droits des défenseurs des droits de l'homme et de l'espace civique au cours de la première moitié de l'année en cours. Cette coalition se base sur le manque d'accès à une justice équitable pour les défenseurs des droits de l'homme, des menaces d'élimination physique, menaces d'enlèvement et des cas d'arrestation. Le Burundi fait face à un défi de taille qui est le manque d'institutions fortes et indépendantes pour la protection des droits de l'homme. Suivez à ce propos Bertrand Ngendakuriyo. Il est chargé de la communication au sein de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme.
Ces derniers mois ont été marqués par une série d'attaques systématiques contre les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes et les acteurs de la société civile. Et ce climat d'intimidation et de répression, vous en conviendrez, mais sérieusement empêché de la possibilité d'un processus électoral libre et équitable. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur la répression judiciaire et l'emprisonnement des défenseurs des droits humains. Nous avons par exemple Fouyani Ilangavie, une journaliste et défenseur des droits humains, qui a été condamnée à 10 ans de prison simplement pour avoir exprimé ses opinions. Elle a été condamnée pour avoir utilisé pacifiquement sa liberté d'expression, si je peux dire ainsi. Et ce n'est pas un cas isolé, car il y a aussi Emilienne Soumana, une syndicaliste activiste, qui a été condamnée à 5 ans de prison pour avoir dénoncé des abus graves dans le système éducatif. Et pire encore, après avoir été acquittée le 28 juin 2024, elle a été maintenue en détention illégalement pendant plus d'un mois supplémentaire. Cela montre bien à quel point la justice est manipulée à des fins politiques. Nous avons un autre cas de Sandra Morosa, cette journaliste de la Nova Burundi, qui croupit en prison depuis plus de 3 mois pour un simple commentaire dans un groupe WhatsApp. Les accusations d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État qui pèsent contre elle ne sont rien de plus qu'une excuse pour réprimer sa liberté d'expression. Et en ce qui concerne la liberté de presse, la situation est tout aussi préoccupante. Le 13 juin 2024, Gérard Nibigira, correspondant de la radio-télévision Isanganiro en province de Gitega, a été arrêté, malmené par le chef de la police dans cette province pour avoir osé photographier un citoyen battu par des agents de force de l'ordre. Il a été relâché après quelques heures, mais cet incident montre clairement que les journalistes sont systématiquement réprimés lorsqu'ils tentent de documenter les abus. Prenons également le cas de Pascal Nakirutimana, responsable du desk politique du journal Iwachu, qui a échappé de justesse à une tentative d'enlèvement, c'était le 4 juin 2024 dans la ville de Bujumbura. Vous voyez, c'est une véritable chasse aux sorcières contre les médias indépendants aujourd'hui. Enfin, le bilan de la première moitié de l'année ne peut pas passer sous silence le rétrécissement de l'espace civique. Pour le 26 mars 2024, lors d'un déjeuner de prière nationale, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a publiquement accusé Gabriel Fili, président de l'ONUCOM, et Faustin Ndikumana, président directeur national de la PACEM, d'agir par rancune et pour des intérêts personnels. Franchement, ces accusations infondées ne sont qu'une tentative de discréditer ceux qui dénoncent la corruption et les abus de pouvoir, et cela illustre bien comment le gouvernement cherchait à marginaliser et à museler les voix critiques.
Inzamba.
La Banque de la République du Burundi, la BRB, a autorisé ce jeudi 8 août tous les opérateurs œuvrant dans le domaine de change de la monnaie qui le souhaitent d'ouvrir des bureaux de change et de fonctionner librement conformément à la loi en la matière. Il est cependant demandé à toute personne intéressée à opérer ou à investir dans ce domaine de s'adresser à cette banque centrale pour des orientations. Pour rappel, beaucoup de bureaux de change avaient été fermés et des changeurs de monnaie arrêtés ou emprisonnés pour atteinte à l'économie nationale. L'Organisation du recensement national qui approche devrait tenir compte des leçons des trois précédents recensements. C'est une analyse du professeur Evariste Ngayimbira, expert démographe. Il ajoute par ailleurs que le bureau chargé de cette opération a récemment annoncé que des moyens pour ce recensement sont déjà disponibles et que donc tout le nécessaire est là pour sa bonne marche.
Le recensement qui est en vue est le quatrième du genre après celui de 79, de 90 et celui de 2008. En principe, avec ce quatrième recensement, ça devrait marcher. C'est vrai que jusque-là, on avait un recensement général de la population et dernièrement, en 2008, on y avait aussi 1000 habitants. Cette fois-ci, on va y ajouter l'agriculture, mais ça pose pas de problème. Parce que du moment que c'est le quatrième, ça veut dire qu'on a quand même accumulé une certaine expérience à la matière, et donc ça devrait aller. Quelles sont, au fait, les conditions pour la réussite d'un recensement? Il y a des conditions financières. Un recensement, ça coûte. Je pense qu'il faut compter au minimum $1 par habitant recensé, mais ça dépend de beaucoup de facteurs. Et de toute manière, un pays ne peut pas s'engager dans un recensement s'il n'a pas pris les précautions de réunir les moyens financiers. Et lors d'une émission qui a été animée par un groupe de trois personnes, dont moi-même, avec le directeur de l'Institut National de Statistique, il nous avait assuré que jusque-là, au niveau des moyens financiers, il n'y a pas de soucis, du moins jusqu'à la clôture de l'opération de dénombrement qui est attendue du 16 au 31 août. Parce qu'après, il y a tout le travail de compilation, d'analyse et tout ça qui a aussi un coût. Il y a donc les conditions financières et ensuite les conditions techniques. Et là, ça dépend évidemment des moyens financiers que tu mets, mais ça dépend aussi des ressources humaines que vous réunissez.
Mais il ajoute que pour éviter des failles dans son recensement, la population doit être bien préparée pour qu'elle réponde à cette opération, tout comme les administratifs doivent s'impliquer pleinement. Selon le professeur Evariste Ngayimbira, cette activité nécessite impérativement l'apport d'experts dans divers domaines qui interviennent dans le recensement, surtout que selon lui, ces experts ne manquent pas dans le pays. On écoute encore une fois le professeur Ngayimbira.
Le Burundi a un pool relativement important de démographes et de statisticiens, et puis il bénéficie de l'expertise et des partenaires, notamment de l'UNFPA et peut-être d'autres instituts de démographie. Je me souviens qu'en 2008, le FUNWAP avait apprêté un expert de l'Institut de démographie de Yaoundé. Je pense que ça a été le cas cette fois pour ce quatrième recensement aussi. Et avec ces moyens humains, on garantit la formation et tout ce qu'il y a comme travail préparatoire, notamment le travail de cartographie et de préparation proprement dite du dénombrement. Le recensement est éminemment une affaire de l'État. Il faut donc que l'État et toutes ses structures coopère à la réussite de ce recensement. C'est la raison pour laquelle, généralement, on n'accepte pas qu'il y ait une autre activité de nature semblable ou proche qui interfère en travail de recensement, parce que là, il y aurait la confusion. La collaboration de l'administration est essentielle. Je me souviens, en 2008, il y a eu un cas d'un gouverneur de province qui a voulu se mêler dans le recrutement des agents recenseurs. Et il a dû d'ailleurs renvoyer de sa province le coordonnateur des opérations de recensement dans sa province. Et pour ça, il a fallu le déplacement du premier vice-président de l'époque pour le réinstaller dans ses fonctions. Donc, il faut absolument que l'administration coopère. Il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau, parce que la confiance et la collaboration de la population en dépend aussi. Et cela se fait aussi à travers tout le travail de sensibilisation, travail médiatique qui cherche à mobiliser la coopération, la collaboration de la population à la réussite de ce recensement. Je pense donc que ce recensement, en tant que 4e recensement, c'est pas nouveau. Il devrait réussir, surtout que d'après ce que j'ai appris lors de cette dernière émission d'il y a à peu près un mois, les conditions techniques sont telles que le travail de contrôle pouvait se faire au jour le jour avec l'usage des smartphones.
Et voilà, c'est par la voix du professeur Evariste Ngaïmenda que se termine cette édition. À la présentation, Alexandre Nyungeko, merci à la rédaction de la radio Inzamba Gake Kakawe pour la production de ce journal. Un grand merci à vous, chères auditrices, auditeurs, pour votre fidélité. Comme disait Feu Laurent Sadou, prenez soin de vous, chaque jour est une vie. Travaillons à la beauté des choses. Au revoir et à la prochaine.